Bonjour, Régis Goulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Bonjour Régis.
Bonjour à tous. Nouvelle émission pour la dignité, émission d'Amnesty International. Voilà, alors je m'excuse, l'émission va peut-être être un peu réduite parce que j'ai oublié certains documents chez moi. Vraiment, je m'en excuse, mais on va quand même essayer de faire cette émission. Il y a un mois, tout juste, nous étions à René Char pour fêter les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme lors d'une soirée de 3 heures de spectacle entrecoupée d'une entracte, et les gens sont restés jusqu'au bout, hein, il y avait plus de 100 personnes. Et on a réussi le pari qu'on s'était fait de lire entièrement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont des jeunes qui se sont chargés de cette lecture. Donc le préambule a été lu notamment par la directrice de René Char et une militante d'Amnesty. Et tous les articles ont été lus par des jeunes lycéens et collégiens de Digne, du Sacré-Cœur, du Pierre-Gilles de Gênes et du Collège Gassendi. Ces lectures accompagnées des chansons et des poésies, notamment des poésies de Claude Braun, bien connue de tous les Dinois et qui est une des personnes qui a créé le groupe d'Amnesty il y a 40 ans. Donc en même temps qu'on fêtait les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on fêtait aussi les 40 ans du groupe d'Amnesty de Digne. Voilà, alors pendant cette émission, tout au long, on va vous passer quelques extraits du concert. Et nous allons commencer par la chanson numéro 1, Le jour de clarté.
Tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des âmes. Et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil, il faut les frères préparer. Le jour de clarté, quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme et on peut parler de fraternité. Mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissons nos préjugés, rejetons nos vieilles idées, apprenons seulement l'amitié.
Pour que les affamés
et tous les opprimés entendons tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres, et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur, et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier. Les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
Merci. Voilà, c'était Jacques Lair et Philippe Marteille dans cette chanson « Le jour de clarté ». Voilà, alors j'ai parlé plusieurs fois à cette antenne du problème de la pollution du delta du Niger, notamment par l'entreprise Shell qui exploite le pétrole là-bas. et qui ne répare pas les nombreux défauts des conduites qui fait que le delta du Niger a été entièrement pollué. Et les habitants, bien sûr, en ont souffert puisque c'était essentiellement des pêcheurs. Et les poissons sont morts dans le delta et leurs ressources ont été supprimées à cause de cette entreprise multinationale. Donc ça fait 23 ans que les gens se battent, se révoltent contre cela. Et le Nigeria a répondu par ses manifestations pacifiques, a répondu par la violence. Et nous avons à Amnesty des preuves que l'entreprise multinationale Shell a aidé le Nigeria à utiliser cette violence, violence qui a entraîné des meurtres, des assassinats et des condamnations à mort de militants qui simplement demandaient justice et pouvoir vivre dans leur pays. Il y a 9 militants qui ont été assassinés par le Nigeria avec la complicité de Shell. Et il y a peut-être un espoir puisqu'il y a un procès qui va s'ouvrir aux Pays-Bas pour justement demander justice. Ce procès est intenté par les femmes des militants qui ont été assassinés. Et donc, 23 ans après, peut-être que on va avoir un peu plus de vérité et de justice sur cette sombre affaire. Et on va pouvoir notamment avoir accès aux 100 000 documents que Shell détient et que Shell a refusé de transmettre jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est un grand espoir pour ces femmes hein, qui demandent justice pour leur mari assassiné. Avec, donc par le gouvernement du Nigeria avec la complicité de Shell. On espère que ce procès va pouvoir aboutir à faire éclater la vérité afin que les entreprises multinationales tiennent compte des populations et respectent les droits humains partout dans le monde. Donc c'est un combat là contre Shell, mais c'est aussi un combat pour que les droits économiques et sociaux soient respectés partout dans le monde. Voilà, donc c'est un espoir. Vous pouvez avoir un peu plus de renseignements sur le site amnesty.fr sur ce procès qui a commencé contre Shell. Voilà, on va écouter une autre chanson de notre concert. Chanson de Maxime Le Forestier, Né quelque part.
Vous avez peut-être reconnu Né quelque part, Maxime Le Forestier. Alors je voulais dire un mot. Maxime Le Forestier, il a écrit cette chanson. Il a dit « J'ai eu envie de faire cette chanson parce que j'ai peur que la France se ferme. Si la France se ferme, je ne vois pas quel pays pourrait être ouvert. Être né quelque part. » Choisis pas ses parents, on choisit pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Mali, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Oh, n'y a pas d'espoir qui croit à ça. De passe-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage, qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Oh, libre d'espoir qui croit ça. À l'endroit où il
messes, que les gens naissent, pareil ou pas. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Oh, libre l'espoir qui croise ça. Oh, libre l'espoir qui croise ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? Que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas.
Merci.
Voilà, très belle chanson interprétée lors du concert d'Amnesty pour les 70 ans de la DUDH. Alors vous savez que la communauté, ce qu'on appelle LGBT, les lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, sont une communauté parmi les plus discriminées dans le monde. Et un peu dans tous les pays, mais il y a des pays qui sont extrêmement violents par rapport à ces personnes et qui n'acceptent pas les différences. Hein, puisque je pense notamment à la Tchétchénie, hein, où le président a dit « mais ça n'existe pas chez nous ». Et pourtant, ça n'existe pas, mais ils vont arrêter, torturer, les personnes en raison de leur orientation sexuelle supposée. Et donc, il y a une violence qui est très, très importante envers les gays, les lesbiennes. Et nous demandons justice pour ces victimes, que les auteurs soient arrêtés et jugés en Tchétchénie et dans bien d'autres pays. Alors, pour agir, vous pouvez agir avec Amnesty International, sans faire partie d'Amnesty d'ailleurs. Il vous suffit d'aller sur le site amnesty.fr et vous verrez l'onglet « Agir » et il y a notamment « Signer des pétitions ». Et vous verrez tout un ensemble de pétitions, dont celle-là, la justice pour les victimes de violences homophobes en Tchétchénie. Vous pourrez la signer. Il suffit de mettre son adresse mail et de signer. Et ensuite, vous pouvez également signer toutes les autres qui sont des cas très différents de violations des droits humains un peu partout dans le monde. Et en même temps, vous avez des informations sur la situation des droits humains un peu partout et sur les actions que nous menons actuellement. Alors, on va continuer toujours avec le concert d'Amnesty. Et un groupe de jeunes qui s'appelle The Springs. Ce sont trois jeunes du lycée Pierre-Gilles de Gênes qui, ayant su qu'on allait faire un concert pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, se sont joints à nous, sont venus en disant « ben voilà, nous on a un groupe de rock et on aimerait bien participer à cet anniversaire parce qu'on est sensible à ces questions des droits humains ». Ils avaient notamment été sensibilisés par l'antenne jeune d'Amnesty du Pierre-Gilles de Gênes qui avait fait en décembre l'action 10 jours pour signer où ils avaient récolté, avec l'aide du groupe de Digne, plus de 1000 signatures pour des cas de violation des droits humains. Donc on est venu au lycée pour les écouter et vraiment on a été conquis par leur enthousiasme et puis leur qualité musicale aussi. Donc, il s'agit de Mathias Delacour, Angelin Faure et Quentin Spaziani, qui s'appellent The Springs, et qui ont interprété la première chanson, Ma Génération, devant le public ravi de René Char. Voilà, ce groupe a enchanté les spectateurs de René Char ce 25 janvier. Alors, on va continuer avec le problème des ventes d'armes, et notamment des ventes d'armes françaises qui alimentent les conflits, notamment en Égypte. Alors, pour ça, nous allons écouter Sarah Roussel, qui est chargée de campagne à Amnesty International France, et aussi Sam Duberlé, qui a créé un réseau d'étudiants partout dans le monde pour étudier toutes les vidéos qui paraissent, autant les vidéos de journalistes, mais aussi d'amateurs, de gens qui ont filmé à leur téléphone portable, pour justement trouver des preuves que des armes françaises, dans ce cas précis, ont été utilisées contre leur population, ce qui est absolument contraire au traité du commerce des armes, qui stipule qu'un pays ne peut pas vendre d'armes à un autre pays si ces armes sont utilisées contre sa propre population. Voilà, donc nous écoutons l'interview de Sarah Roussel et San Duberlé.
Avant d'écouter cette interview, je voudrais qu'on en parle encore un peu. Si tu peux nous donner plus d'informations sur ces ventes d'armes.
Oui, Amnesty est une des associations parmi d'autres, hein, qui a œuvré pour qu'existe ce traité sur le commerce des armes. C'est-à-dire, on a fait pression, on a fait intervenir l'opinion publique, hein, par une signature, une pétition notamment, une pétition qui avait une échelle mondiale, hein, puisque tous les groupes d'Amnesty de tous les pays ont participé à cette action. Et cette pétition consistait à faire prendre en photo des gens volontaires avec le symbole du pistolet tordu. Vous savez, c'est une sculpture qui est à l'ONU à New York, mm-hmm. devant le bâtiment. Et puis des slogans, contrôler les armes, voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les pays où les armes circulent, où on peut acheter des kalachnikovs comme on va acheter une baguette de pain, les violences sont énormes. Et les violences avec justement les armes sont souvent tournées vers les plus fragiles, vers les enfants, vers les femmes, voilà. Et donc, on s'est dit, il faut absolument contrôler ces armes. Un pays a le droit de se défendre, bien sûr, mais on ne peut pas vendre des armes à un pays qui va utiliser ces armes contre sa propre population, comme ça s'est passé en Égypte, hein, ou alors vendre des armes à un pays qui va utiliser ces armes pour commettre des crimes contre l'humanité, mmh. hein. Ce qui se passe notamment au Yémen, où vous avez des bombardements d'hôpitaux, d'écoles, voilà, et où les gens vivent dans la terreur et dans la famine aussi, hein, puisqu'on a des enfants qui meurent de faim dans ce pays, qui sont extrêmement amaigris, sans compter les traumatismes liés aux bombardements, aux destructions de maisons, etc. Donc on s'est dit, il faut absolument faire ce traité, parce qu'ensuite, une fois que le traité sera fait et sera signé, on pourra s'appuyer sur ça pour demander des comptes justement aux pays, et notamment aux pays vendeurs d'armes. Et vous savez que la France...
Alors justement, est-ce qu'on a une idée à peu près de tous ces pays qui vendent des armes librement?
Oui, bien sûr, on connaît les grands...
Ceux qui n'en vendent pas.
On connaît les grands marchands d'armes, hein, bien sûr. Hein, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a la France, qui est bien placée... voilà, donc on a fait cette pétition photographique, hein, et on a réuni plus d'un million de visages de personnes différentes dans toute la France. Alors sur Digne, je me souviens, on avait fait une action sur la place de Digne avec l'École des Beaux-Arts. Mmh. L'École des Beaux-Arts qui nous a fait toute une installation avec une grande bâche noire et des dessins, ben, justement de ce pistolet avec le canon tordu. Et des slogans, et les gens étaient sur ce fond noir et tenaient un panneau sur lequel il y avait marqué « Contrôler les armes, pas d'armes pour commettre des atrocités, etc. » Et on avait eu beaucoup de succès, les gens étaient intrigués, venaient monter, c'était sur le kiosque à musique. Et certains Dinois doivent s'en souvenir, hein, puisque beaucoup de personnes étaient venues se faire prendre en photo, ce qui n'était pas évident. Et c'était la première fois qu'on faisait une pétition photographique. Et ces millions de visages ont été remis à l'ONU lors de sa session sur les droits humains. Et ça a enclenché justement une réflexion de la part des membres de l'ONU. Beaucoup de pays, notamment justement les pays qui souffrent de cette... de ces armes qui circulent trop librement, ont signé très rapidement ce texte, hein, qui a été rédigé. Donc ensuite, vous savez qu'un texte à l'ONU, une fois qu'il est rédigé, il faut qu'il soit signé et ensuite il faut qu'il soit ratifié. C'est-à-dire que signé, c'est le pays qui s'engage à aller vers la ratification de ce traité et à mettre notamment sa juridiction en conformité avec le traité. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, le pays le ratifie. Et une fois que le pays ratifie ce traité, il s'engage à le respecter. Voilà. Alors la France a été un des pays, il faut le reconnaître, moteur, hein, dans la rédaction et la signature de ce traité. Mais par contre, c'est aussi un gros marchand d'armes. Et... il y a beaucoup de critiques à faire sur une certaine opacité de ces ventes d'armes. Hein, à qui les vend-on ? Est-ce que les parlementaires sont toujours au courant de ce qui se vend ? Voilà. Et est-ce que c'est utilisé dans les conflits ou non ? Alors, on nous assure que non, mais nous, on a des témoignages comme quoi, oui, en effet, c'est utilisé dans les conflits. Hein. Et justement, ces témoignages et puis ces preuves, on les a en étudiant justement les vidéos, hein. Donc, et notamment les vidéos amateurs. Ce qui fait que c'est vrai qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, par ces possibilités de nuisance, et elles sont certes nombreuses, mais il y a aussi, dans les nouvelles technologies, des avantages, justement, dans la défense des droits humains, parce qu'on peut filmer certaines violences et on peut prouver que, ben voilà, tel camion militaire vendu par la France a servi à opprimer des manifestants pacifiques. Et notamment, c'est ce qui se passe en Égypte et ce que vous allez entendre dans le reportage qui suit.
Nous vous en parlions dans une précédente vidéo. La France n'est pas transparente sur ses ventes d'armes, quitte à violer ses propres engagements. Nous avons donc décidé de mener l'enquête sur un cas très précis de vente d'armes à destination de l'Égypte pour trouver des preuves. Ce que nous avons découvert est très inquiétant et révèle encore une belle hypocrisie du gouvernement français. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'éclairage.
La situation est critique en Égypte, très critique. Nous, la France, nous appelons au refus de la violence.
À propos de nos ventes d'armes, l'année 2015 a été une très belle année pour la France.
On n'obtiendra rien par des affrontements.
16 milliards de ventes.
C'est 16 milliards.
16 milliards.
Il faut revenir vers un cheminement démocratique.
C'est un record, oui. C'est le double de l'année précédente.
Et refuser la violence.
La France a toujours entretenu des relations avec l'Égypte. On pourrait remonter jusqu'à Napoléon ou la campagne d'Égypte pour les férus d'histoire, mais avançons un peu dans le temps jusqu'au début des années 70. En 1971, les relations entre les deux pays se renforcent avec l'ouverture d'une mission militaire française à l'ambassade de France. Une mission qui permet alors le transfert d'armes telles que des avions de combat type Mirage 5 ou le Mirage 2000, des hélicoptères type Gazelle et le service après-vente qui va avec. Et cette coopération est encore d'actualité. L'ambassade le dit d'ailleurs elle-même sur son site internet. La France et l'Égypte entretiennent des relations de défense toujours plus élaborées, reposant sur plusieurs accords bilatéraux et en particulier sur l'accord de coopération militaire. Des contrats prévoient d'assembler des armes françaises sur le territoire égyptien, voire même de produire certains composants sur place. Si bien que la France est devenue ces dernières années un des fournisseurs clés d'armes à l'Égypte. Alors jusqu'ici, on ne voit pas vraiment où est le problème. Il s'agit d'un commerce d'armes entre deux pays, comme il en existe beaucoup. Mais voilà, la France a pris des engagements européens et internationaux. Elle doit par exemple respecter le traité des Nations Unies sur le commerce des armes, appelé aussi TCA. Un traité signé par plus de 97 pays à travers le monde. Le point principal à retenir de ce traité est très simple. Un pays ne doit pas vendre des armes à un autre pays s'il existe un risque qu'il les utilise pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains. La France, comme les autres pays, doit donc respecter ce traité qu'elle a signé, ratifié et même promu. Et tout le problème est là. L'Égypte, à partir de 2011, est secouée par une de ses plus graves crises. Répression sanglante des manifestations, arrestations et procès de masse, tortures, disparitions forcées, et la liste est encore longue. Le 25 janvier 2011, d'importantes manifestations éclatent contre Hosni Moubarak, le président de l'époque. Sa chute en 2011, l'arrivée du président Morsi en 2012, le coup d'état militaire qui s'ensuit et l'arrivée du général Al-Sisi à partir de 2013 n'y changeront rien. Peu importe le régime qui réprime dans le sang ses citoyens, la France va continuer à livrer des armes à l'Égypte en quantité astronomique. En 2017, comme le monte cette courbe, le gouvernement avait livré pour plus d'un milliard d'euros d'armes. Et pourtant, à cette même période, la France fait la promotion du traité sur le commerce des armes. En 2013, Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, déclare sur ce traité « Je souhaite que notre pays puisse montrer l'exemple en étant l'un des premiers grands États à s'engager. » Et dans un autre communiqué du même ministère, la France condamne les événements en Égypte. La France déplore très vivement les violences survenues au Caire lors des opérations d'évacuation. Elle présente ses condoléances aux familles des victimes. Il est essentiel que ces violences cessent et qu'une logique d'apaisement prévale. La France a donc livré d'énormes quantités d'armes à un pays qui réprime ses citoyens, tout en faisant la promotion du TCA, traité censé protéger les civils. Un bel exemple d'hypocrisie made in France qui soulève des inquiétudes. Dès 2011, nous écrivons au gouvernement français. Les armes livrées ne doivent pas servir à réprimer la population égyptienne. Pour nous, les réponses du gouvernement n'étaient clairement pas suffisantes et loin d'être transparentes. C'est pour cela que nous avons décidé de mener l'enquête. Nous avons donc fait appel à notre équipe de vérification numérique dirigée par Sam Dubelet.
Bonjour, je suis Sam Dubelet, je travaille chez Amnesty International et je gère un projet qui s'appelle Digital Verification Corps, ce qui est un réseau d'étudiants partout dans le monde qui sont formés par Amnesty pour faire la vérification sur les vidéos. L'équipe Digital Verification Corps a travaillé plus d'un an sur la recherche sur les ventes des armes de la France vers l'Égypte.
Notre organisation a analysé plus de 20 heures de vidéos et plusieurs centaines de photos.
On cherche partout où on peut. Ça veut dire des réseaux sociaux comme YouTube, comme Twitter, comme Facebook. Ça veut dire des journaux télévisés comme France 2, France 3, TF1, etc. Donc vraiment là où on peut trouver quoi que ce soit, on fait notre recherche.
Nous avons trouvé une dizaine d'éléments prouvant que des armes françaises étaient directement impliquées dans la répression des manifestations.
Par exemple, en août 2013, place de la Rabia, où plus de 1000 personnes ont été tuées par les forces égyptiennes dans une journée. On a vu dans plusieurs vidéos des véhicules français qui transportaient la police. On a vu dans plusieurs vidéos la police égyptienne qui tirait des armes sur la population depuis des véhicules français, c'est-à-dire des véhicules, des Sherpas, des Mids vendus par Renault Defense Truck, utilisés par la police égyptienne dans la répression des manifestations entre 2011 et 2015.
Enfin, nous avions des preuves. Des armes françaises ont été utilisées pour réprimer la population égyptienne. Malgré cela, la France continue de nier l'évidence. En 2016, après une visite de François Hollande en Égypte, les ONG, dont Amnesty International, sont reçues à l'Élysée. Lors de ce rendez-vous, les représentants de la présidence semblaient ne pas être au courant des livraisons répétées et importantes de véhicules blindés à destination de l'Égypte. Remettant en cause l'existence de ces livraisons et affirmant que cela s'était déroulé avant 2011, donc avant la répression égyptienne. Ce qui n'a pas manqué de nous étonner, car l'ensemble des données officielles indique justement le contraire. Aujourd'hui, l'Égypte est toujours en pleine crise des droits humains. Le gouvernement d'Al-Sisi fait régner un climat de terreur et les procès de masse de manifestants sont monnaie courante. Quant à la France, elle ne joue toujours pas le jeu de la transparence. Un bien bel exemple pour un pays qui fait la promotion d'une éthique internationale en matière de vente d'armes. La France continue d'ailleurs d'en vendre aux quatre coins du monde. En tant que troisième exportateur mondial d'armes, elle se doit de respecter les traités qu'elle a signés et même promus. Mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas encore le cas. Tout n'est pas perdu. Il y a de cela quelques mois, nous avons réussi à faire pression grâce à votre mobilisation. Nous avons interpellé les députés sur les réseaux sociaux pour qu'ils prennent position. Et pour la première fois, des élus de toutes tendances politiques se sont exprimés publiquement pour dénoncer le manque de transparence du gouvernement en matière de vente d'armes et défendre l'idée d'un contrôle parlementaire. Pour que la France soit complètement irréprochable sur ces ventes d'armes, nous avons encore besoin de vous. Agissez avec nous en cliquant sur le lien qui s'affiche. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Éclairage. Si notre travail vous intéresse, partagez la vidéo ou parlez-en autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode.
Vous trouverez les références sur le site d'Amnesty. Si vous voulez réécouter, c'est une vidéo en fait. Il y a une petite animation qui va avec le texte que vous venez d'entendre. Donc n'hésitez pas à aller sur amnesty.fr si vous êtes intéressé par cette question des armes et plus généralement par les problèmes des droits humains. Voilà, maintenant nous allons continuer de voyager dans le concert d'Amnesty avec une des trois chansons interprétées par Odile, trois chansons de Barbara. Donc Odile Frison, qui est en face de moi, a eu la gentillesse de nous interpréter trois chansons de Barbara accompagnées au piano par Marjorie Bourgois, qui est professeure au Conservatoire de musique de Digne. Voilà, donc c'était un très beau moment de la soirée. Et on va écouter Göttingen, qui dit justement que les enfants de Göttingen, ce sont les mêmes qu'en France et partout dans le monde. Les enfants sont des enfants.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, la 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 la. La 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 la, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Voilà, très belle chanson et très bien interprétée par donc Odile et Marjorie, hein, qui sont venus, alors tous les artistes, je tiens à le dire, bien sûr, sont venus bénévolement participer à cette soirée. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre journal qui s'appelle La Chronique d'Amnesty International et que vous pouvez trouver à la médiathèque de Digne, puisque le groupe a abonné la médiathèque. Voilà. Alors, il y a notamment l'éditorial de Cécile Coudriou, qui est la présidente d'Amnesty International France, et dont le titre est intitulé « Faire face aux vents mauvais ». Alors, dans les vents mauvais, c'est vrai qu'à l'aube de 2019, on en voit beaucoup. Et notamment, elle cite l'exemple de l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro au Brésil, qui est très préoccupante, hein, puisque ce Trump des tropiques a repris son effarant slogan de campagne « Le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous ». Il a réaffirmé toute une série de promesses inquiétantes, comme la libéralisation du port d'armes ou la redéfinition des terres des autochtones, si convoitées par l'agro-business, les compagnies minières et l'industrie du bois. On sait par ailleurs ce que cela signifie pour les opposants et activistes lorsqu'un nostalgique de la dictature promet de rétablir l'ordre. On sait également les menaces qui pèsent sur les droits des minorités ethniques, des femmes et des personnes LGBT, lorsque racisme, sexisme et homophobie sont assumés sans vergogne. Alors il promet de s'attaquer donc à tout ce que nous incarnons, nous les défenseurs des droits humains. Et il se sent bien entouré. Comment ne pas avoir un symbole dans la présence à son investiture des premiers ministres Netanyahou, Viktor Orban et du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Indéniablement, avec cette élection, la liste des hommes forts s'allonge avec Poutine, Erdogan, Duterte, Al-Sisi, Xi Jinping et bien d'autres. Au-delà de leurs différences, ces leaders semblent s'inspirer mutuellement. Adoptant la posture de protecteur de la nation, ils n'hésitent pas à remettre en cause les libertés fondamentales et le principe même d'universalité des droits au nom d'objectifs sécuritaires ou de valeurs traditionnelles. Face à ces menaces, nous devons être réactifs et offensifs. Nous pouvons soutenir et amplifier la voix des défenseurs des droits humains brésiliens. Nous avons ainsi appelé, avec un collectif d'associations, à former une coalition pour appuyer la société civile locale et mener une action de plaidoyer auprès des institutions françaises et européennes. Dans la relation avec le Brésil de Bolsonaro, la défense des droits fondamentaux et des valeurs universelles ne saurait être sacrifiée aux intérêts économiques et géopolitiques. Ensemble, continuons de protéger la flamme des droits humains contre les vents mauvais, au Brésil ou partout où ce sera nécessaire. Faisons de 2019 une année de résistance, mais aussi de victoires, petites ou grandes, dans ce combat permanent qui est le nôtre. Voilà l'éditorial, et vous pouvez lire le journal à la médiathèque de Digne. Voilà, il y a tous les numéros. Et maintenant, nous allons écouter une poésie de Claude Braun. Et vous allez voir que cette poésie ensuite a été mise en chanson par Jacques Lair. Voilà, et ça parle d'un vieux couple.
On a parlé du vieux. Je vais vous dire un texte qui a été écrit en 2015 à peu près, un jour où mon chien me promenait entre la gare routière et le palais des congrès. J'ai croisé un vieux couple. Alors, vous n'applaudissez pas à la fin, je ne vous dis pas pourquoi, mais vous verrez. Dans la pénombre de la ville, j'ai croisé un vieux couple. Mon Dieu qu'il était laid. Mon Dieu qu'il était laid. Il marchait en boitant, parlant des petits riens du jour. Mon Dieu qu'ils étaient laids. Mon Dieu qu'ils étaient laids. Curieux, je me suis retourné. Ils marchaient lentement, donnant la main à leur secret ridé, parlant des petits riens du jour, des petits riens de leur amour, et sur leur dos voûté, éclairant la pénombre, souriait une étoile à la fenêtre de leur cœur. Mon Dieu, qu'ils étaient beaux. Mon Dieu, qu'ils étaient beaux.
Un texte de Claude qui m'a beaucoup plu. Il m'a tellement plu que je l'ai mis en musique. Et ça s'appelle Le Vieux Couple.
Dans la pénombre de la ville, j'ai croisé un vieux couple. Mon Dieu, qu'il était laid. 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 Ils marchaient en boitant, parlant des petits riens du jour. Mon Dieu, qu'ils étaient laids. 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 Ils marchaient lentement, donnant la main à leur secret ridé, parlant des petits riens du jour, des petits riens de leur amour. Et sur leur dos voûté, éclairant la pénombre, souriait une étoile à la fenêtre de leur cœur. Mon Dieu, qu'ils étaient beaux. 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 Dans la pénombre de la ville, j'ai croisé un vieux couple. Mon Dieu, qu'il était laid. 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 Il marchait en boitant, parlant des petits riens du jour. Mon Dieu, qu'ils étaient laids. 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 Il marchait lentement, donnant la main à leur secret ridé, parlant des petits riens du jour, des petits riens de leur amour. Et sur leur dos voûté, éclairant la pénombre, souriait une étoile à la fenêtre de leur cœur. Mon Dieu, qu'ils étaient beaux. Mon Dieu, qu'ils étaient beaux. Mon Dieu, qu'ils étaient beaux. Mon Dieu, qu'ils étaient beaux.
Voilà, très beau texte de Claude Beaune et bien mis en musique par Jacques Lair. Alors, je vais vous parler maintenant du Festival de films au cinéma pour les droits humains. C'est un festival dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons sélectionné des films et nous allons à Digne faire deux séances. Alors, notez bien les dates. Jeudi 21 mars, première séance, et jeudi 28 mars, deuxième séance. Alors, la première séance, le 21 mars, ce sera à 18h15 au Ciné-Étoile. C'est une soirée court-métrage et l'entrée sera libre avec une participation pour ceux qui veulent. Voilà, nous allons vous proposer quatre courts-métrages. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir des courts-métrages, donc ce sera bien l'occasion. On vous présentera Porté à Doras, qui est un court-métrage qui décrit un jour dans la vie des porteuses et porteurs de Melilla, à la frontière sud de l'Espagne et du Maroc. Ils doivent attendre, exposés à n'importe quelle condition météorologique, chaleur extrême, froid, pluie, et évidemment sans hygiène de base, de santé et de normes de sécurité. Ils subissent le harcèlement, des insultes, l'abus, l'humiliation et des agressions multiples. Voilà ce premier court-métrage de 10 minutes. Ensuite, vous aurez un deuxième court-métrage qui s'appelle El Mundo Entero de Julián Quintanilla. C'est un petit bijou, ce court-métrage. Voilà, alors je vous dis un petit peu l'histoire. Comme il fait chaque année, Julian rend visite à sa mère morte dans le cimetière du village. Elle lui apparaît et ils font des projets, plus ou moins ensemble. Elle les conçoit et il obéit. Mais cette année, Julian va être étonné par ce que va lui dire sa mère. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ensuite, le troisième court-métrage s'appelle Cotabambas, Trésor caché. C'est de Miguel Angel Izaga Villa. C'est l'histoire d'un trésor qui se cache sous le sol de Cotabambas, à Apurimac. Pour beaucoup de ses habitants, il ne doit pas être profané. Ceux-ci ont su trouver en développement durable sans surexploiter le sol, sans polluer et sans faire de mort. Cependant, de gros capitaux sont arrivés pour tout changer et les laissent sans défense avec un état complice du fameux développement économique invisible pour le peuple. Voilà, donc c'est un court-métrage sur une histoire d'expulsion de population pour construire une mine et exploiter en polluant. Et puis le dernier court-métrage s'appelle « Paradis ininterrompu ». Alors nous l'avons mis à la fin parce que nous aurons avec nous le réalisateur qui s'appelle Juan Romero et sans doute aussi le héros de l'histoire, si vous voulez, qui s'appelle Rahman Ismail, qui est un jeune réfugié syrien qui a fui la guerre civile, qui s'est enfui en France dans l'espoir de reconstruire sa vie après la guerre et de devenir un architecte professionnel. Hein, c'est un beau clin d'œil puisque son pays a été détruit. Et lui, il veut faire un métier pour construire, justement. Donc, je pense qu'on aura la chance de l'avoir. Il a bien envie de venir. Il y aura, dans tous les cas, le réalisateur qui vient de Grèce. Et sans doute le Rahman Ismail qui vous racontera un petit peu son parcours de réfugié et pourquoi il a fui et ce qu'il espère, ses espoirs dans l'avenir. Voilà, ça s'appelle Paradis ininterrompu, ça passera donc le jeudi 21 mars à 18h15 à Cine-Étoile. L'entrée est libre et venez nombreux à cette soirée qui traite de droits humains dans différents contextes. Voilà. Et nous allons maintenant continuer avec le spectacle d'Amnesty. On a eu le bonheur d'avoir Stéphanie Waller qui a interprété des chansons un petit peu enfantines mais avec toujours un lien avec les droits humains de façon un peu clown. Voilà. Et elle nous interprète Sur la route de Louviers.
Sur la route de Louviers, sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier, il y avait un cantonnier, et qui cassait des tas de cailloux, et qui cassait des tas de cailloux, pour mettre sous passage des roues une belle dame. Vingt ans passés, une belle dame, vingt ans passés, dans son beau carrosse doré, dans son beau carrosse doré. Et elle lui dit, pauvre cantonnier, et elle lui dit, pauvre cantonnier, tu fais un fichu métier, le canton. Le cantonnier lui répond, faut que je nourrisse mon garçon, et suis-je roulion, carrosse comme vous, je ne casserions pas un caillou. Cette réponse se fait remarquer, cette réponse se fait remarquer par sa grande simplicité, c'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux.
Bravo. Voilà, alors je vous ai donc dit que le jeudi 21 mars à 18h15, c'était notre première soirée court-métrage avec Entrée Libre. La semaine d'après, le jeudi 28 mars, toujours à 18h15 à Cinétoile, nous allons passer un long métrage qui s'appelle Lindy Lou. Lindy Lou, c'est le nom d'une femme américaine qui était jurée d'assises et qui, avec les autres jurés, a condamné à mort une personne aux États-Unis. Et donc, elle a toujours pensé à cette histoire. Ça l'a marqué toute sa vie ensuite. Et elle a voulu savoir un petit peu comment avaient vécu les autres jurés. Donc, elle part pour un long périple à la rencontre des autres jurés. Et donc, c'est la peine de mort vue du côté des jurés. Donc, c'est une approche très différente hein, qui montre que quand même, ça, c'est quelque chose qui marque et ça fait réfléchir. Donc, cette soirée-là, le prix d'entrée, c'est 5 euros. Et nous aurons une intervenante qui s'appelle Anne Denis, qui est la responsable de la commission abolition de la peine de mort à Amnesty France et qui viendra vous parler du film et puis aussi de l'état de la peine de mort dans le monde entier. Et je sais, tous les militants d'Amnesty pour écrire pratiquement toutes les semaines des courriers pour demander que des personnes ne soient pas exécutées. Tous les militants d'Amnesty savent combien cette peine est complètement injuste et souvent donnée à des opposants politiques ou des gens qui ont juste manifesté leur opinion. Voilà. Donc, grande soirée sur la peine de mort, jeudi 28 mars à 18h15 à Cinétoile. Voilà, alors je vous donne aussi quelques annonces. Jeudi 28 février, donc là dans 3 jours à 18h30, vous avez un film sur Jean Vanier. Qui s'appelle « Le sacrement de la tendresse ». Vous pouvez voir un clip à partir de la chanson de Jean-Jacques Goldman « Je te donne », clip réalisé aussi avec Jean-Jacques Goldman, sur justement ce qu'a créé Jean Vanier. Hein, il a fondé, je vous rappelle, la communauté de l'Arche en 1964 pour justement venir en aide aux handicapés. Hein. À l'époque, ces personnes présentant des troubles mentaux sont considérées comme le rebut de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles psychiatriques où la vie n'est pas tendre. Donc il a été profondément touché par cette détresse et il décide de vivre avec eux dans une petite maison du village à Trosky-Breuil dans l'Oise. C'est le début de l'aventure. Voilà. Et l'Arche maintenant compte plus de 1200 personnes en situation de handicap mental dans 33 communautés. La Fédération internationale est présente dans près de 38 pays, avec 152 communautés sur les 5 continents. Voilà, donc il y a un film sur cette aventure. Jeudi 28 février à 18h30 au Cinétoile. Je vous rappelle aussi le vendredi 1er mars, c'est le rassemblement des coquelicots hein, pour le droit à la santé pour tout le monde et notamment le droit de manger sainement. Et donc, c'est la lutte contre les pesticides, ces produits qui sont très dangereux pour la nature, pour la diversité et puis pour l'homme aussi. Et puis, les coquelicots vont faire passer aussi un film le lundi 25 mars à 18h15, toujours au Cinétoile, qui s'appelle Le grain est livré et qui est justement sur ces problèmes de pollution. Voilà donc les dernières informations. Donc rappelez-vous, jeudi 28 février, cinéma Jean Vanier. Jeudi 21 mars, 18h15, soirée court-métrage d'Amnesty International. Lundi 25 mars, un film présenté par les coquelicots, Le grain est livré. Et jeudi 28 mars, à 18h15, au Cinétoile toujours, le film Lindy Lou. Sur cette jurée aux assises ayant condamné à mort une personne et qui revient qui rencontre les autres jurés longtemps après. Et donc une soirée consacrée au problème de la peine de mort avec Anne Denis, qui est la responsable de la commission abolition de la peine de mort. Voilà. Alors j'ai le grand plaisir de terminer cette émission avec une chanson qui a été chantée à la fin du concert Et j'y tiens particulièrement parce qu'elle a été créée spécialement pour Amnesty International par un des intervenants, un des artistes de la soirée, qui s'appelle Jacques Lair, qui a composé le texte, écrit la musique et qui nous l'a chanté pour la première fois en public ce soir-là. Et voilà, donc j'ai le plaisir de vous la faire écouter. Faites bien attention aux paroles parce que ça colle tout à fait à la mission d'Amnesty International. Voilà, au revoir. On finit sur cette chanson.
Pour seul délit, j'ose penser trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme, Amnesty. Amnesty, allume ta bougie, Amnesty, Amnesty, écris-moi je t'en prie, libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faiblesse est d'être un enfant, né d'une ville à feu, à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis, qui étaient hier mes amis. Ils ont saigné mon âme, Amnesty, Amnesty, allume ta bougie, Amnesty, Amnesty, écris-moi je t'en prie, je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre, jeune et joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens salivolé. Privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme, Amnesty, Amnesty, allume ta bougie, Amnesty, Amnesty, écris-moi je t'en prie, efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer, et terminer 6 pieds sous terre. Ils crachent sur mon âme, Amnesty, Amnesty, allume ta bougie, Amnesty, Amnesty, écris-moi je t'en prie, les dieux volent en paix et en ombre, sous les ailes de la colombe. Seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme, Amnesty, Amnesty, allume ta bougie, Amnesty, Amnesty, écris-moi je t'en prie. Tes coups de plume sur le monde, ouvre la cage de ma colombe. Amnesty, Amnesty, allume tes bougies. Amnesty, Amnesty, écris-nous, je t'en prie. Amnesty, Amnesty, j'allume ma bougie. Amnesty, Amnesty, pour libérer, j'écris.
Voilà, on finit sur cette très belle chanson de Jacques Lair.
Qui pourra devenir un générique pour l'émission Pour la Dignité, peut-être.
Et pourquoi pas, voilà. C'était une bonne idée.
Bonne soirée Régis.
Et bonne soirée à tous.
Au mois prochain.
Au mois prochain, mois de mars, mois du cinéma, vous avez
et
vu.
Et voilà, oui. On se retrouve donc nous le lundi 25 mars à 16h30.
Voilà.
Au revoir.
Très bien, au revoir. Thank you.